Et désormais sur Radio Primitive, je vais laisser la parole à Paul qui a choisi de parler de radio à la radio. C'est plutôt original. Alors tu vas nous dire déjà peut-être avant de commencer, Paul, pourquoi tu as choisi de t'intéresser à la radio, tout simplement?
Mais tu l'as dit, je fais un stage à la radio, je suis sur place. J'arrive à être de terrain dans les bureaux et c'est là où je suis très fort.
Donc du coup, tu refais l'histoire, c'est ça? On va repartir dans le temps?
On va repartir dans le temps, on va rester en France. On va raconter ce qui se dit à la radio, on va raconter les différents émetteurs.
Eh ben vas-y, je t'en prie, on t'écoute.
Il y a un siècle et demi, on découvre qu'on peut faire partir des ondes d'un point A pour les intercepter en un point B. En fait, on découvre qu'on peut faire voyager des messages dans l'air. Et ça, c'est hyper pratique quand tu veux parler à quelqu'un à l'autre bout du monde, quand tu veux diriger une armée ou encore quand tu veux diffuser de la musique, faire entendre ta voix dans tous les foyers. On n'y est pas encore. Avant ça, il y a eu pas mal d'aventures. Et parmi elles, une des premières radios de France. Et elle se trouve dans un sous-sol, tout au bout du Champ de Mars. En 1898, la tour Eiffel n'est pas encore démontée. Donc Eugène Ducretet, qui est un militaire, va en profiter. Il demande l'aide de Gustave Eiffel pour son projet, qui est d'envoyer un message depuis la tour. Ça marche, et son contenu, qui est écrit en morse, est reçu au Panthéon. C'est le début de la télécommunication en France. On peut maintenant contacter l'autre bout de la ville sans bouger de sa chaise. On appelle Gustave Ferrier, un pionnier dans le domaine. Celui-ci va peu à peu, à mesure de test, faire de la tour une arme précieuse pour la Première Guerre mondiale, un moyen de commander les troupes à distance. Bon, la technologie, elle est maintenant présente sur le front, mais elle permet de transmettre rapidement des informations entre les quartiers généraux, les unités, les différentes branches de l'armée, mais les civils, eux, ils sont toujours pas concernés. Et c'est quand l'Europe retrouve la paix que sa nouvelle utilité est trouvée à l'énorme antenne. En fait, on essaye petit à petit de diffuser des émissions grand public dans Paris. Et au début, c'est compliqué. Le matériel n'est pas adapté pour la voix. On essaye de passer de la musique pendant quelques mois. On fait des tests un peu en soum-soum, discretos. On essaye de passer de la musique, des voix. Et ça marche de plus en plus. Le 6 février 1922, Radio Eiffel est inaugurée par la lecture d'un poème de Victor Hugo. Il y avait Yvonne Printemps, il y avait Sacha et Lucien Guitry. Et franchement, il y a pire pour un lancement. Son usage est plus seulement militaire. Les programmes évoluent. Dans un premier temps, il y a une lecture de la météo qui est proposée tous les jours à 16h30 pour les agriculteurs. Et puis, après, les après-midi sont consacrés à la diffusion de programmes musicaux, de concerts en direct. Et tous les codes qui dicteront la radio plus tard, en fait, ils apparaissent maintenant. Le premier journal parlé du monde, il est mis en place par Maurice Privat dans les studios de Radio Eiffel. C'est un rendez-vous quotidien qui séduit de plus en plus d'utilisateurs. Et comme toutes les belles histoires, Radio Eiffel prend fin en 1940 avec l'arrivée de la guerre. Pendant la guerre, les méthodes de télécommunication reviennent principalement aux mains des militaires et il faudra attendre les années 50, quand l'Europe sera de nouveau en paix, pour que les civils redeviennent la cible de la technologie. Les récepteurs apparaissent de plus en plus dans les foyers. Il y a même des postes à transistor qu'on peut emmener partout. Et ça, c'est carrément la classe. Mais la radio, c'est toujours un monopole de l'État. Et les paroles qui sortent du poste, elles sont contrôlées et filtrées. En fait, les ondes offrent pas une énorme diversité d'opinions. Et elles servent quasiment que comme moyen de diffusion de messages officiels et de programmes éducatifs. C'est barbant, mais ça a le mérite d'exister. La diversité, elle va vraiment apparaître à partir des années 60, avec l'explosion des radios pirates. Elle diffuse depuis la mer, depuis des sous-sols, depuis les hauteurs des villes. Elle diffuse cachée, mais elles font vraiment beaucoup de bruit, et notamment chez les jeunes. Parce que, contrairement à la radio nationale, elles ont une image qui est vraiment rock et rebelle, parfois même politique. Des émetteurs illégaux comme Radio Caroline, Radio Verte à Paris ou encore à Reims, Radio Primitive, enfin, Radio Manivelle, font faire la guerre à l'État qui se bat à coups de brouillage. Et c'est à ce moment-là que tout se tente. La fraîcheur et la révolte que ça représente font monter l'engouement. Les personnes à l'antenne pouvaient être n'importe qui. N'importe quel bidouilleur avec un peu de fric pouvait avoir de quoi émettre depuis son placard. L'antenne est à tout le monde et tout le monde est à l'antenne. Et c'est précisément ce qui dérange l'État et les grands médias. La parole à tous. Le discours est clair. On comprend pas comment ça peut plaire. On comprend pas comment ça peut être viable. La France a pas besoin d'autant de médias. La qualité de l'information serait trop dure à garantir. Donc on interdit. Et malgré les tentatives de brouillage, dès que nécessaire, les radios en question se relocalisent sur d'autres ondes. Et puis c'est reparti pour un tour. Le jeu est pourtant risqué. À raison d'un mois à un an d'emprisonnement et entre 10 000 et 100 000 francs d'amende. Et personne ne lâche. L'ère des pirates continue. Et puis, sous Mitterrand, en 1981, c'est la libération. Les pirates passent organisation privée et les bandes FM sont redistribuées. Toute la diversité offerte par les radios pirates se retrouve dans ces nouvelles radios qu'on appelle radios libres. Par contre, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc certaines radios fusionnent, d'autres sont obligées de disparaître. Mais la libération, c'est aussi l'arrivée de la publicité dans les radios privées. Il y a un nombre d'aventures énormes qui arrivent après. Mais pour ça, je vous laisserai, si vous le souhaitez, rechercher par vous-même. Il y a de quoi y passer une bonne après-midi, mais perso, je vais en rester là. Aujourd'hui, il est possible d'écouter la radio sans poste, sur un téléphone et même en podcast 2 mois après la diffusion. Et ça, ils étaient loin de l'imaginer. Il y a 1 siècle et demi, dans un sous-sol tout au bout du champ de Mars.
Quelle histoire ! Quelle évolution ! Quelle évolution ! Merci pour cette historique radiophonique en France, en tous les cas. Je crois que toi, Paul, t'as un petit morceau en plus que tu voulais nous passer à la suite de ta chronique. T'as choisi un morceau rock, justement, vu que tu nous disais que t'aimes le rock.
Ouais. Moi, je vais vous laisser avec Chaka Ponk. Chaka Ponk qui veulent absolument passer la radio avec leur titre Shiza Radio.
Eh ben, merci à toi, Paul.
Shine. I want Fergie to sing into my mind.